Voilà, Radio Libertaire, Chronique Hebdo, vous venez d'écouter Géant, plaidoyer d'un futur crétin. Donc, oui, alors je voulais rappeler Chronique Hebdo, notre émission. Alors, dans le monde libertaire, ce qu'on peut lire comme titre, c'est « L'esclavage apprend aux hommes à être serviles. Et pour se libérer de l'esclavage, il faut des hommes aspirant à la liberté. » Et bon, j'ai trouvé bien cette citation parce que c'est justement le caractère rebelle des personnes. Je pense que au niveau des anarchistes, on devrait pouvoir gérer au moins envisager que la rébellion n'est jamais quelque chose de négatif, quoi. Il faut essayer de comprendre quand il y a de la rébellion et pas l'éradiquer comme font la plupart des gens autoritaires. Donc, et je voulais justement par rapport aussi à un autre article, j'en profite de parler que j'ai le micro là au début avant qu'il a des ferlantes. Donc pour rappeler de faire la mienne aussi, de rappeler que dans le monde libertaire aussi il y a moi un article que je suis là et que je trouve vachement bien, qui est signé Rod Cole. Ça s'appelle Chronique néphrétique et je trouve souvent je trouve ça très intéressant très souvent. Et alors là en ce moment il fait des critiques sur l'aspect militant et obtus qu'on peut voir dans beaucoup d'endroits et c'est assez marrant, donc je vous conseille de le lire. Et alors bon, là il y a un jeu de mots, il dit ne mélangeons pas les torchons et les soviettes.
Bien. Donc, voilà.
Je trouve que c'était assez progrès. Drôle. Et alors pour en revenir, bon, c'est très intéressant. Donc, il a affaire à un militant qui veut absolument pas lire Le Monde Libertaire. Ben, il milite chez Mélenchon, évidemment, il est fermé à toute autre analyse. Mais enfin, on peut se dire que des fois aussi, nous aussi, on peut être fermé à d'autres tentatives aussi de nous faire montrer d'autres choses. Et alors, je voulais juste pourquoi Malatesta aussi, parce que
voilà.
Explication. Parce que justement, par rapport à ce genre d'attitude de gens, comme vous disiez tout à l'heure, qui pensent momentanément on élit quelqu'un et puis bientôt arrivera les temps meilleurs où effectivement l'État disparaîtra, enfin tout ça. Donc je voulais une citation de Malatesta que je trouvais assez adaptée. C'est « Mais il ne suffit pas de désirer une chose, il parle de l'idéal à atteindre. Hein. Si on veut l'obtenir, il faut certainement employer les moyens adaptés à sa réalisation. Et ces moyens ne sont pas arbitraires. Ils dérivent nécessairement des fins que l'on se propose et des circonstances dans lesquelles on lutte. » Alors évidemment, en élisant encore un chef, c'est certainement pas le bon moyen d'éliminer les chefs. Voilà, alors, il poursuit, et en se trompant sur le choix des moyens, on n'atteint pas le but envisagé, mais on s'en éloigne vers des réalités souvent opposées et qui sont la conséquence naturelle et nécessaire des méthodes que l'on emploie. Qui se met en chemin et se trompe de route ne va pas où il veut, mais où le mène le chemin qu'il a pris. Voilà. Je trouvais que c'était très...
Alors Jacques, juste sur ce point, puisque complété par rapport à Malatesta, je voulais dire, dans le monde libertaire de ce jour, vous trouverez un supplément aussi livre, hein, par rapport à une petite sélection de bouquins à Publico. On vous le rappelle, 145 rue Amelot, pour le monde libertaire et pour Radio Libertaire. Et là aussi, on fait un petit point, une petite note que je voulais vous lire, à propos de Enrico Malatesta.
Enrico Malatesta.
C'est pas Enrico Macias. Non, Jacques, je voulais pas.
On Enrico. Rappelle 1899-1920.
Alors, exactement. Donc, ça s'appelle Écrit choisi. Et voilà ce qu'il dit, hein, la petite note, dans le monde libertaire de ce jour, celui qui peut s'adapter et vivre content parmi des esclaves et profiter du travail des esclaves, celui-là n'est pas et ne peut pas être anarchiste. Être anarchiste, c'est ce que dit Malatesta par définition, celui qui ne veut être ni opprimé, ni oppresseur. Hein, regardons, celui qui veut le maximum de bien-être, alors bien-être, c'est pas le bien-avoir, hein, à l'époque où écrit Malatesta, ce que c'est que le bien-être, le maximum de liberté, hein, le plus grand développement possible pour tous les êtres humains. Hein, seul être humain en prison et ma liberté est atteinte, hein, pas comme avait dit l'autre prétendante il y a 5 ans, ma liberté s'arrête ou commence celle des autres, enseignée par l'école de la République, encore une fois. Aujourd'hui encore, Malatesta reste un exemple remarquable de cohérence révolutionnaire au service de l'idéal, de justice et de liberté. Alors voilà, c'était quand même, précipitez-vous, entre autres, sur un de ses bouquins, hein, l'ensemble de cette sélection, vous trouverez dans Le Monde Libertaire de ce jour. Et pourquoi l'explication? On voulait vous parler d'Errico Malatesta dans Chronique Hebdo. Jacques.
Oui, alors, tout à l'heure, tu disais, Josie, que effectivement les gens acceptaient volontiers finalement de se plier aux exigences de ceux qui commandent, de l'État, et quand on leur dit eh ben ton boulot c'est d'aller voter, t'es pas un vrai citoyen si tu vas pas voter, tu manques d'esprit civique si tu vas pas voter. Or je regardais dans le dictionnaire au fond ce que voulait dire civisme, et s'il y avait des synonymes, et on disait ben oui, le civiste, le citoyen, celui qui fait preuve de civisme, eh bien c'est celui qui fait preuve de patriotisme, c'est le patriote, le chauvin, celui qui en effet est prêt à se soumettre comme dans l'armée. Et alors il y avait même péjorativement un mot que je ne connaissais pas et qui traitait au fond celui qui se soumet comme citoyen de ratapoil. Alors le ratapoil, c'est en effet l'électeur. Hein, le ratapoil, c'est l'électeur. Et on a évoqué la semaine dernière la Boétie, et la Boétie disait, mais finalement ce qui trahit au fond le côté positif de l'homme qui a besoin d'être d'accord avec ceux qui l'entourent, qui a besoin d'une forme de fraternité, de solidarité, il dit ce qui le paralyse et ce qui risque de détruire ce qui est naturel chez lui, c'est-à-dire ces phénomènes positifs de lien social, eh bien c'est l'habitude. Eh ben voilà, il faut changer d'habitude, me disait un professeur de philosophie quand j'allais au lycée. Eh bien, l'habitude, c'est quoi l'habitude? Eh ben c'est ce qu'on vous dit tous les 5 ans, tous les 3 ans, allez voter. Eh ben c'est cette mauvaise habitude qui vous transforme en monstre.
Hein. Comme d'habitude.
Donc changer d'habitude, nous dit la Boétie, et écoutez-le, puisqu'au fond, si quelqu'un a bien développé ce que c'était que la servitude, et la servitude volontaire, qui est encore pire, eh bien, je crois que c'est bien lui.
Oui, Jacques, pour rire un petit peu, puisque Josie, tu avais évoqué tout à l'heure le clo-clo qui tournait en boucle, souvenons-nous de la chanson, hein, comme d'habitude, prends mon café, comme d'habitude, je vais voter, et donc c'est comme d'habitude, je suis exploité, comme d'habitude,
voilà. C'est la fatalité.
Ce matin, Gérard, écoute l'audience, on va...
Alors, Jacques,
parler de la revue Ligne, que je vous invite soit à trouver dans une médiathèque, parce qu'elle vaut quand même 30 euros, soit, si vous avez les moyens, de l'acheter. Cette revue Ligne a posé la question qui, effectivement, me paraît, si un futur électeur, un futur votard, un futur ratapoil veut se former, veut s'émanciper, eh bien, il devrait lire cette revue, parce que je trouve qu'elle est très intéressante, et c'est des petits articles de une ou deux pages simplement dans cette revue qui a invité 40 personnes. Alors moi je les connais pas, mais enfin il y a 40 apparemment amis de cette revue à qui on a posé la question, mais pourquoi? Mais il s'agit pas de savoir pour qui voter, mais surtout pourquoi? Mais pourquoi vous allez voter? Et je crois que les réponses sont évidemment très intéressantes. Alors tous ces 40, ils ont pas tous la même vision des choses. une grande partie quand même dans ce que j'ai lu, parce que j'ai pas lu tout, est tout à fait consciente que le fait d'aller voter, c'est véritablement une catastrophe. Mais enfin, il y en a quand même qui malgré le fait qu'ils constatent les dégâts que constitue cette fausse démocratie, cette démocratie dite représentative, et qui effectivement élimine véritablement toute capacité d'une population à se gérer elle-même, à s'autogérer. Eh bien, il y en a qui disent bah oui, quand même. Mais le moindre mal, ça serait d'aller choisir machin plutôt que truc. Eh bien, je crois que, effectivement, dans cette question « Pourquoi voter ?», il y a une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire, quand on dit « Pourquoi ?», ça veut dire « Pourquoi voter ?», on dit ça en un seul mot. Hein. On dit « Pourquoi ?», c'est vrai, au fond, c'est idiot d'aller voter. Mais en même temps, dans le « Pourquoi ?», il y a la notion de « Mais qu'est-ce que c'est que on veut vous faire faire ?» Qu'est-ce que c'est exactement? C'est pas seulement voter, c'est quand même répondre à un sujet. C'est qu'il y a une question, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème, quel est-il? On veut vous imposer le fait que ce problème n'est que choisir un nouveau pour un président de la République. Mais au fond, vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette idée qu'il faut absolument choisir un nouveau président de la République. Et donc, moi, j'avais fait un petit texte sur ce sujet-là que je vais essayer de vous lire. La revue Ligne, donc, qui paraît trois fois par an, a consacré son numéro 37, février 2012, à la question qui devrait tenailler toutes les têtes bien faites en ce début d'un printemps électoral étouffant. Une quarantaine d'amis de la revue se sont livrés à un exercice d'autant plus difficile qu'ils ne leur demandaient pas pour qui voter, quelle marionnette, comme dirait Eva Joly, aspirant au trône, avait leur suffrage, mais si ce rituel électoral consistait tous les 5 ans à se choisir un roi, un démocratique roi, bien sûr, un président de la République, un guide éclairé, dernier recours avant la fin de tout. Est-ce que cette question, est-ce que ce quoi valait véritablement le déplacement ou avait une signification? Alors évidemment, j'ai essayé de jouer les experts. Vous savez, il y a beaucoup d'experts. Hein. Justement, j'entendais ce matin qu'on critiquait. Il paraît qu'il y a un bouquin qui a été fait par un ancien journaliste du Monde pour dénoncer les experts. Les experts en économie, notamment les Cohen et compagnie, qui nous abreuve de mon champ, oui, les chiens de garde, ouais. Qui sont rétribués largement, etc. Bon, alors moi, j'ai voulu, sans être rétribué, jouer les experts autoproclamés, et dans cette analyse des copies qui ont été rendues par une dizaine d'élèves, amis de la revue, et évidemment, j'ai dû constater que sans erreur, aucun des contributeurs ne s'était posé la question. Hein, c'est-à-dire, au fond, ils ont tous répondu au pourquoi en un seul mot, mais aucun n'a répondu à, au fond, ce que j'évoquais tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est qu'on vous pose comme question? Qu'est-ce que c'est que le sujet? Pourquoi ce sujet n'est-il pas évoqué? Pourquoi on ne développe pas toute l'idée de ce que c'est qu'un président de la République? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est là? Quel est son rôle? Etc. Et donc, je crois que cette interrogation, eh bien, n'a pas été traitée, hein, par les personnages qui ont été interrogés par cette revue. Et c'est vrai que dans la question, il n'y avait pas une distinction entre le pour et le quoi. C'était un pourquoi, tout simplement. Et je crois que c'est ça qui a effectivement orienté leur réponse en disant bah oui, moi je vais pas voter, ou moi je vais voter, etc. Mais il n'y en a pas un qui a dit, il n'y a pas un qui a cherché à dire, mais au fond, qu'est-ce que c'est que ce sujet? Pourquoi est-ce que on me demande de choisir un président de la République? Pourquoi est-ce que, c'est ce que je disais au début aussi de cette émission, pourquoi dans un pays qui est sous le coup d'un coup d'État permanent, comme disait Mitterrand. Pourquoi est-ce qu'on continue à un pays anticonstitutionnel, hein, puisqu'il y a un coup d'État depuis 58, pourquoi est-ce qu'on continue à vouloir aller choisir un président de la République? Pourquoi aller vouloir sacraliser un personnage au risque, évidemment, d'accroître la perversion et la nocivité inhérente à tout pouvoir personnel? Et on sait très bien que le pouvoir personnel, hein, il n'y a pas que Louise Michel qui l'a dit, le pouvoir personnel perverti absolument. Et si on parle de perversion, hein, je crois qu'on va pas revenir sur ce qu'on a dit ce matin à propos de l'attitude des hommes politiques, de leur côté prostitué. Alors voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne ce sujet.
Jacques, alors continuez peut-être, parce que ça, bon, lié ce qu'on avait dit ce matin, hein, par rapport à ce que tu viens d'exprimer, édition Ligne, hein, tu parlais de la revue Ligne, eh bien, là aussi, je vous le signale, donc je vous parlais de ce petit bouquin
Badiou, il est...
Et publié par les éditions Ligne, hein, et rentre, alors je voulais vous citer quelques lignes à mon tour de présentation à par rapport qui me semblait encore une fois intéressant par rapport à son ouvrage, hein, cet aspect d'insister sur la religion du bulletin de vote, hein, qui était formulé évidemment aussi bien par le poète qu'on aime bien et beaucoup plus que ça, qui s'appelle Gaston Couté, vous savez, ce fameux texte, ce fameux poème, cette poésie qui a été chantée sur, ou pas, hein, non, peut-être pas celui-là, sur les électeurs, hein, qui sont pas des bêtes comme les autres, évidemment, les électeurs, et la religion du bulletin de vote, il résume la religion, ce qu'on nous dit, hein, par rapport à, je vous rappelle le titre du livre, moi quand j'ai demandé à certains libraires s'ils avaient ce livre, alors j'ai énuméré Sarkozy pire que prévu, les autres prévoir le pire, ils se sont mis quand même à rigoler en disant c'est de qui on n'a pas entendu, parce que je vous le signale quand même, c'est sorti le 10 mars, hein, c'est très, quand même assez récent. Alors, l'aspect quand même un peu important sur lequel Alain Badiou insiste, c'est la religion dont nous devons être les fidèles croyants. Et pour preuve, il dit cette foi aberrante dans cette hystérie électorale, eh bien, c'est comme ceux qui s'y opposent, comme à toute religion, sont traités d'apostats. Et pour eux, eh bien, tous les qualificatifs tombent. On leur dit totalitaire, fasciste, ils résument antisémite. Alors antisémite, souvenons-nous, l'antisémitisme partout en France. Éric Hazan était venu, justement, c'était un bouquin coécrit par Éric Hazan et Alain Badiou, dans cette émission Chronique Hebdo, pour voir comment, évidemment, on massacrait, par rapport à tous ces chiens de garde, celui qui n'était pas d'accord avec leurs analyses, en particulier sur l'État d'Israël, et puis aussi par rapport à des positions qu'on pouvait exprimer sur un ensemble de sujets, eh ben, comment l'arme de destruction massive, hein, de traiter l'autre d'antisémite, l'annihilait, hein, c'est comme on dit, c'est l'arme fatale. Alors, ces points-là aussi sont employés, évidemment, contre ceux qui proclament que c'est un piège à con, au-delà de ça que c'est une escroquerie, que c'est une, évidemment, là, pour réfléchir un peu plus, une religion, et il exprime aussi le choix forcé, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, on doit aller, on doit se soumettre, hein, et encore une fois, on est convoqué, j'aime bien ça, la convocation par l'État, que le vote est une condition, évidemment, contraire, totalement contraire à la liberté de créer obstinément, c'est ce que dit Badiou, des lieux nouveaux d'une politique d'émancipation, c'est-à-dire aller bien au-delà. Alors, je voulais dire, aller bien au-delà, évidemment, du vote blanc, hein, comme monsieur Bruno Gassiot, un des guignols, aller au-delà du vote blanc, on va en parler tout à l'heure, comme Michel Onfray, évidemment, qui a soutenu des candidats, à un moment, fallait voter par un candidat de gauche, après le NPA, et puis qu'en est maintenant...
Ben oui, parce que si tu votes blanc, ça veut dire que tu acceptes le principe du vote.
Exactement, hein. Tu es dedans, alors c'est pour ça, le fait d'en sortir, et là aussi, un autre bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle « Élection piège à con ». Alors, « Élection piège à con », écrit par Jean Salem. Alors, je voulais préciser, c'est pas rien, entre guillemets, pour, vous savez, les institutions et les hiérarchies que je parlais tout à l'heure des universitaires. Il est quand même prof de philo, hein. Écoutez bien, « prof de philo à la Sorbonne, et il nous dit quand même, il était sur un plateau télé, je dis, j'ai écrit un ouvrage, Élection piège à con, mais j'irai quand même voter au premier tour pour Mélenchon. Et alors, il a écrit pour lui ce livre, Élection piège à con. Alors voilà, on entend tout. Alors simplement, je voulais vous préciser que Jean Salem est le fils d'Henri Allègue, dont certains, évidemment, aux auditeurs, enfin, on connaît Henri Allègue, hein, par rapport à la torture, entre autres, et journaliste écrivain, enfin, l'importance que ça avait. Et lui, est venu sur un plateau pour nous dire à peu près des choses qu'on vient de vous dire sur ce que l'on dit des élections, sur ce qu'a exprimé Alain Badiou. Mais encore une fois, hein, plus fort, il avait écrit ce bouquin. Et puis, lui aussi, la mélenchonite lui est tombée sur le ciboulot. Et en écrivant Élection piège à con, alors je vais le dire quand même aux auditeurs, il a mis un point d'interrogation. Hein. Et c'est ce point d'interrogation qu'il a
répondu,
dubitatif, oui. De dire hein, quand même.
I am.
Alors au premier tour, hein, comme on dit, comme les tours de con, des tours de manège, hein, puisqu'il parle de piège à con. Mais au deuxième tour, je ferai abstinence. Alors voilà, je ferai abstinence. Alors ça aussi, c'est quand même révélateur, un peu dans et ce que je voulais dire, c'est comme quand même pour tout un tas de gens qui se posent des questions. Alors là aussi, elle est référente à des hyper et des grands penseurs. C'est quand même deux philosophes, hein, de la pensée politique qui vous disent ça, c'est-à-dire dans un premier temps, et qui reprennent, hein, je l'ai dit au début de cette émission, quand même énormément de choses à la pensée libertaire, plutôt à la pensée anarchiste en tout cas, hein, par rapport à Alain Badiou, reprendre évidemment une analyse importante de ce qu'ont dit les anarchistes depuis très longtemps par rapport aux élections. Évidemment que c'était un jeu, au-delà d'un jeu, mais c'était l'État qui avait inscrit, hein, c'est la bourgeoisie, c'est son propre jeu, donc évidemment elle va pas, elle l'a déjà fait, hein, quand les gens sont pas d'accord, ils votent non, elle lui fait, la bourgeoisie, un bras d'honneur, et puis elle lui dit, bah, toute façon, le traité constitutionnel européen, eh bien, on l'appliquera, puisque c'est un jeu. Plus on l'a dit, on le voit évidemment dans toutes les sociétés, on se moquait, alors certains pas comme Le Monde, du Sénégal, mais souvenons-nous, là aussi, Poutine, en Russie, Medvedev, Poutine, hein, les gens, comment on peut les prendre? Alors, aussi bien, il y a des fois, c'est plus subtil, aux États-Unis, c'est les milliardaires qui sont élus, donc évidemment, c'est le jeu du capitalisme, et faire le jeu du capitalisme, on parlait tout à l'heure de Malatesta, d'être un esclave, eh bien moi, je dirais évidemment, être un esclave, eh bien, c'est la continuité. Aller voter, eh bien, c'est une chaîne, c'est un maillon, justement, de cette grande chaîne de l'esclavage, de cette grande chaîne de soumission à l'État, et comme tout à l'heure on le disait, de légitimation du système capitaliste, qui est un système, on le rappelle, hein, là encore une fois, un système de mort qui détruit l'ensemble de la planète sur tous les plans. Et donc, comment certains ont parlé de fascisme vert, eh bien, le fascisme capitalisme, hein, le totalitarisme, c'est totalitarisme, c'est sur l'ensemble de la planète, eh bien, voilà ce que l'on fait, on va voter, et de la même manière, on se soumet, et donc on cautionne, on valide, et je l'ai dit quelquefois souvent, quand on prend un coup de matraque sur la gueule, ou quand on est mis en garde à vue, eh bien, on peut remercier l'électeur de sa collaboration.
Oui, d'ailleurs, quand tu dis que le capitalisme, qui est vraiment quelque chose de, pour Monsieur Michel Onfray, de fatal, indépassable. On n'a pas trouvé mieux. Hein, c'est un peu comme la démocratie du père Churchill. Eh bien, j'ai retrouvé ces derniers jours un commentaire de Orwell qui avait en effet une expérience à la fois de ce que c'était que le fascisme, puisqu'il s'était battu en Espagne avec les anarchistes espagnols et contre à l'époque les staliniens, les communistes espagnols, et il écrivait donc à cette époque-là en 1939, il écrivait: les communistes ne reculent devant aucun moyen pour étouffer tout ce qu'il pouvait rester de la tentative révolutionnaire espagnole. Agent révolutionnaire, le communiste a instauré en Espagne un véritable règne de la terreur. Après ce que j'ai vu là-bas, c'est toujours Orwell qui parle, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il est vain d'être antifasciste tout en s'efforçant de maintenir, de préserver le capitalisme. Ah, je répète, il est vain, dit Orwell, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il est vain d'être antifasciste tout en s'efforçant de préserver le capitalisme. Après tout, ajoute-t-il, le fascisme n'est qu'un avatar du capitalisme et la démocratie, aussi débonnaire soit-elle, est très capable de verser dans le fascisme si elle se trouve en mauvaise en mauvaise posture. Alors je crois que ça illustre bien ce que tu viens de dire. On peut peut-être, avant de passer à notre ami Michel Onfray, passer un peu de...
Et Josie, alors évoquer ce que tu m'as dit, les annonces, peut-être Jacques, moi j'ai pas eu dans les radios ce matin que la grève générale...
Oh ben non, il y a l'Omerta.
La grève générale, apparemment, ça serait déclenché en Espagne ce matin. Donc c'est une formation importante. Il y avait déjà des titres dans des journaux. Sur les événements, l'a rappelé de la situation politique économique en Espagne. C'est-à-dire, là aussi, on parlait de la Grèce qui a été complètement anéantie. Là aussi, par le système tel qu'il est, ce système capitaliste, on vient vous le dire, donc il faudra d'autres pays pour que les gens, peut-être certains, on va pas le redire ce matin, universitaires, chiens de garde du système, pris dans leur certitude, enfermés, eh bien, la situation en Espagne, il l'a rappelé quand même qu'en Espagne, les plus jeunes, la population jeune, jusqu'à 30 ans, c'est plus de 50% qui est sans revenu. Parce que c'est pas simplement de dire sans boulot. Le boulot de bosser pour le capitalisme, on sait ce que ça veut dire, ce qu'il demande, puisqu'il jette, il prend, il tue, cher à patron, c'est la même chose. Eh bien, là, la situation, voilà ce qu'elle est. Alors, on le rappelle, pour l'Espagne, donc la Grèce, l'Espagne, suivre justement l'ensemble de ces informations et l'importance que ça peut avoir, pour rappeler aussi que la votation, là-bas, ce qu'elle avait donné, des socialistes, qu'est-ce que ça voulait dire? Évidemment, c'était une annonce mensongère, comme la publicité mensongère avec Zapaterroriste, comme je dis. Eh bien, en tout cas, la suite, eh bien, c'est les reliquats du franquisme qui sont à nouveau là, qui sont à nouveau en Espagne. Et qui suivent, évidemment, qui veulent appliquer à l'Espagne ce qui a été appliqué à la Grèce. Là, c'est la continuité, le jeu de domino, l'Italie. Voyez, pour l'ensemble des pays du Sud, on est dans cette situation-là, et évidemment bien loin de cette escroquerie votation pour faire une façade, pour empêcher de réfléchir à la politique et de nous dire, voter, c'est le contraire de réfléchir, on l'a dit souvent, voter ou réfléchir, il faut choisir.
Et si, en effet, il y a une action positive, c'est celle d'être solidaire avec les Espagnols. Et si cette grève montre qu'elle a en effet intéressé, mobilisé une grande partie du peuple espagnol, eh bien je crois que on peut pas attendre des hommes politiques français ni des syndicats, malheureusement, des bureaucraties syndicales, qu'elles fassent un appel de solidarité. Mais je crois que ce serait en effet une démonstration autrement convaincante de la volonté de changement que de faire en sorte que l'ensemble de la population française, en tout cas une immense majorité, se soulève pour, en quelque sorte, être solidaire de ce qui se passe en ce moment en Espagne.
Oui, puis l'information ces jours-ci, ça a été de dire que l'Espagne et la Grèce, c'est pas du tout pareil, que si en Grèce la dette c'est l'État, en Espagne c'est les gens qui auraient trop dépensé, qui se seraient endettés. Et là je vois un titre, c'est élèves turbulents de la zone euro.
C'est vrai que ce matin
il y avait aucune info là-dessus, surtout ne pas en parler, et plus l'intoxication ces jours derniers sur
l'ensemble des crapules médiatiques choisissent leur titre, évidemment.
C'est le peuple espagnol qui est responsable de la situation. C'est pas du tout les banques qui ont en effet poussé les gens à emprunter, alors qu'effectivement, malheureusement, ils n'avaient pas les moyens de pouvoir rembourser, comme aux États-Unis, des milliers, des dizaines de milliers. D'ailleurs, je crois qu'Obama a essayé de ralentir cette expulsion des Américains.
Et juste le lien avec ça, hier soir, on apprenait, enfin, certains l'ont dû, que Monsieur Lévy, du groupe Publicis Badinter, parce que souvent on oublie de le dire, est parti avec une retraite, hein,
13 millions d'euros.
Des 13 millions d'euros, alors qu'il avait fait un texte, taxons-nous, taxez-nous.
Ah oui, enfin, et il avait écrit qu'il supprimait son salaire. Il avait un salaire de 600 000 euros, et il a dit généreusement, je supprime mon salaire, car je pense que il faut que les riches
payent. Publicitaire de tous ces salopards, hein, publicitaires qui sont là, et qui raflent les millions pour faire le poison, encore une fois, ce que c'est que la communication et la publicité, le poison, un autre poison pour acheter la merde capitaliste.
Donc, une petite pause.
Oui.
Alors, si on change complètement de sujet.
Oui, on va parler de notre ami Michel Onfray.
Alors, ah bon ? Ah bah alors, ça tombe bien, parce que
après,
j'ai une chanson qui
après
s'appelle...
Des, oui.
Mexicon. Ça vous va, ça?
Oui.
Non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave.
On a chanté la Parisienne, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les Madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. Prétend que les Norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout, que le soleil de Mexico, on devient fou, au son des rythmes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne, dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui châtaille, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont arrêtées et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Une aventure mexicaine sous le soleil de Mexico, ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre boléro. Puis le deuxième c'est de chaîne, plus rien ne vous freine, on part au galop. On oublie tout, sous le beau ciel de Mexico, on devient fou, au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont arrêtées et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Mexico, Mexico.